This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Alors ces années-là, les années dites années 40, eh bien en 41, les difficultés pour les Français commencent à se faire très sérieusement sentir, notamment les pénuries. La vie des Français est d'abord marquée par les pénuries. Elle s'explique par différents éléments. Pénurie de main-d'œuvre. 1,5 million de Français sont prisonniers en Allemagne, soit sous la forme de prisonniers simplement, soit sous la forme d'obligation de travail, c'est le STO, le service de travail obligatoire. Prisonniers et donc actifs en termes d'énergie, pour le charbon, pour l'électricité, et donc ces absences affectent la production. Même si, comme au cours de la Première Guerre mondiale, les femmes vont se mettre au travail et donc occuper très souvent beaucoup de postes d'hommes. Malheureusement, cette égalité dans le travail que connaîtront les femmes pendant les guerres en général, eh bien, ne se retrouvera malheureusement pas au moment des libérations. Mais c'est une autre histoire. Les réquisitions allemandes diminuent également la part disponible pour les Français. Et donc, tout ce qui est important, tout ce qui est produit, a tendance à partir pour l'Allemagne. Et puis, également, la désorganisation des transports, liée notamment au fait qu'il existe deux zones. Et puis, le blocus que font les Alliés, c'est-à-dire notamment les Britanniques, aggrave évidemment la situation des Français. Alors, c'est essentiellement un manque de nourriture, un manque de produits de toutes sortes, de toute nature. Et il est un secteur où c'est assez caractéristique et où les commentaires, quelquefois, sont assez amusants parce qu'ils travestissent, d'une certaine façon, la réalité. Ce domaine où la collaboration avec l'État allemand va être flagrant, eh bien, c'est le domaine de la mode. Et voici comment, dans une archive des actualités françaises, en 1940, voici comment on décrit, avec un son très particulier, on décrit le moment de la mode et donc la saison de la mode. C'est la Fashion Week de l'époque. Comment elle est décrite par le commentateur de cette époque-là?
Soulignons le grand effort accompli aujourd'hui par la haute couture parisienne afin de redonner la vie à cette industrie de luxe qui a porté dans le monde entier le goût et l'élégance française. Les modélistes se sont mis au travail afin de trouver les nouveaux ensembles qui seront adoptés cet hiver. Les dessins terminés, les teintes choisies, le modèle passe à l'atelier. Combien de midinettes, grâce à cette activité, ont ainsi retrouvé leur gagne-pain ? Et bientôt, la collection d'hiver sera prête à affronter le jugement des clientes. Le grand jour est arrivé et les mannequins vont présenter les différentes créations au public. Comme nous le voyons ici, les ensembles sont adaptés aux circonstances présentes. Sobriété dans les coloris, simplicité dans la ligne, telles sont les caractéristiques des robes, des tailleurs et des manteaux que vous porterez cet hiver, mesdames. Ensemble automnal, chapeau légionnaire en simple jersey, tailleur noir relevé par une cravate de zibeline. Ce manteau en agneau gris des Indes, très ample, n'entrave pas la marche et se trouve bien adapté à la vie actuelle de la Parisienne. deux ensembles plus habillés pour l'après-midi. La loutre revient à la mode, comme le prouve ce manteau et cette toque. À droite, un bien charmant chapeau simplement orné d'une plume de faisan.
Voilà, voyez comment la période est à la simplicité. Alors, les mots trompent parce que simplicité, et on nous dit que la loutre revient à la mode, alors qu'en réalité, la loutre remplace le vison, mais de vison, il n'y en a plus. Et donc, également, le mouton des Indes remplace toutes les fourrures précieuses qui, évidemment, n'ont plus cours ces années-là. Et ce qui est le plus étonnant, c'est la plume de faisan qui sert de décor au chapeau et qui, lui, la pauvre plume ne représente plus qu'une illusion de modiste par rapport à cette époque. Alors, comme le dit ce document d'actualité de l'époque, eh bien, c'est pratiquement, il n'est pas un seul couturier qui n'ait pas collaboré. Car le mot-clé de cette époque, de ces années 40, eh bien, c'est collaboration. Il est un certain nombre de gens qui refusent de pactiser et donc de fournir en marchandises l'Allemagne. Et puis, il en est d'autres qui considèrent qu'ils sont un peu forcés de le faire. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le marché français n'est évidemment plus du tout suffisant, puisqu'on n'y rencontre que de la pénurie et des problèmes de ressources. Encore une fois, les gens ont de la difficulté à boucler les fins de mois, alors que l'Allemagne, de par ce qu'elle recueille comme tribut de la part du pays vaincu, eh bien, là, le luxe coule à flot. Et donc, les fabricants, et pas seulement les grands couturiers, les patrons d'une manière générale vont collaborer. Alors, je vous propose d'écouter là aussi un document. C'est un document qui a recherché donc les conditions de cette collaboration. Vous y entendrez d'ailleurs la voix du maréchal Pétain qui parle clairement de collaboration et d'homme nouveau. Le texte est dû à Jean-Charles Degnaud et on y recueille notamment le témoignage d'un jeune Allemand, Helmut Kerl, qui est le fils d'un grand industriel du tissu et qui donc a permis à un certain nombre d'industriels français de collaborer avec lui et donc avec l'ensemble de l'Allemagne. Il y a eu, il faut le savoir, à la Libération, 13 000 dossiers de patrons collaborateurs. Ils ne furent condamnés simplement qu'à quelques amendes. Quand on sait qu'une femme qui avait eu une relation amoureuse avec un soldat allemand était-elle tondue, vilipendée et quelquefois tuée par la foule, je trouve qu'il y a là de poids et de mesure.
La guerre. En un mois, l'armée française est balayée par la Wehrmacht. 8 millions de réfugiés se déversent sur les routes de France. La défaite est consommée, puis c'est l'armistice. Le gouvernement se replie à Vichy. Philippe Pétain devient chef de l'État français. En octobre, à Montoire, la poignée de main Pétain-Hitler fixe pour 4 ans le sort des relations franco-allemandes.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française. Une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. C'est moi seul que l'histoire jugera.
Bien avant cette déclaration décisive, tout était déjà joué. C'est dans cet hôtel cossu de Wiesbaden, une paisible ville d'eau allemande, que le sort économique de la France a été scellé 2 mois plus tôt. 400 millions de francs par jour. C'est la somme exorbitante que la délégation française d'armistice, dirigée par le général Hützinger, s'est engagée à verser aux Allemands. Officiellement, il s'agit de payer l'entretien des troupes d'occupation. Les Français vont tenter en vain de réduire ce chiffre. près de 150 milliards par an, soit l'équivalent du budget de la France en 1939. Avant de regagner Vichy, Hützinger s'exclamera « Avec cet argent, ils vont pouvoir s'acheter la France entière. » Il ne croyait pas si bien dire. Ils vont non seulement l'acheter, mais aussi la piller. L'économie française va maintenant s'organiser en fonction du nouveau découpage du pays imposé par les Allemands. Au nord, une zone interdite rattachée à l'administration militaire allemande de Bruxelles. À l'est, une zone annexée de fait au Reich. Le reste du pays est divisé en deux. Une zone occupée soumise à l'administration militaire allemande installée à Paris dans l'hôtel Majestic. Une zone non occupée dont la pseudo-capitale est Vichy. Avec les 730 milliards effectivement versés entre 40 et 44 par les vaincus, les Allemands vont pouvoir tout s'acheter, dans quelque zone que ce soit. De l'armement aux munitions, en passant par les produits de luxe, les matières premières, les locomotives ou les automobiles, ils vont tout payer rubis sur l'ongle. Comme le miel attire les mouches, cette réputation de rapides et bons payeurs va attirer les chefs d'entreprise français. Les affaires sont les affaires.
Mon père était un fabricant de tissus pour la confection féminine. Et dans cette fonction, il est allé pour la première fois à Paris lors de l'automne 1940, peu après le traité d'armistice. Il a été envoyé pour discuter avec les industriels français. Il devait examiner avec eux les conditions d'une collaboration économique future. Les entrepreneurs français du textile et plus tard ceux des autres secteurs industriels étaient convaincus qu'ils devaient collaborer à tout prix avec les Allemands. Comme ils n'étaient pas aidés par leur gouvernement, les Français étaient contraints de collaborer avec l'Allemagne. C'était la seule possibilité pour eux de sauver leurs entreprises. Les Français se voyaient donc pratiquement dans l'obligation de trouver des interlocuteurs pour nouer contact avec les usines allemandes qui accepteraient de travailler avec eux. D'ailleurs, avec qui d'autre les Français auraient-ils pu pactiser? Il n'y avait pas d'alternative.
Willkommen, bienvenue, welcome.
À peine installés à Paris, les Allemands s'intéressent de près à la haute couture. Ces messieurs les occupants se montrent très friands de mode parisienne. Alors que les films de propagande montrent comme ici d'élégantes femmes dans les rues de Paris, les Françaises, pour cause de pénurie, se confectionnent d'élégantes jupes avec trois bouts de tissu, portent d'étranges bibis et se teignent les jambes pour remplacer les bas introuvables. La chambre syndicale de la haute couture allemande voit là une occasion inespérée d'abattre une rivale. Les patrons français entrent dans le jeu des Allemands. Chanel, Molineux, Gray, Rochas, Magyarouf, Haim, Balenciaga vont présenter avec complaisance leur collection aux nouveaux maîtres de la France et aux plus belles femmes de Paris. Prestige oblige.
Voilà, c'est ainsi la collaboration va se développer, le marché noir également. Et tous ces messieurs, ces beaux messieurs du capital vont aller vers là où leur intérêt des portes, c'est-à-dire vers la collaboration maximum avec l'Allemagne, jusqu'en 1944, date à laquelle certains se retrouveront des sortes de résistants de la 25e heure. En 1941, eh bien, c'est une année un peu tournante puisque c'est l'année de Pearl Harbor. Pearl Harbor est bombardé sans sommation par les Japonais, ce qui déclenche l'horreur de la part des Américains. Et les États-Unis, à partir de là, vont entrer en guerre contre le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Cette intervention va être décisive puisque ça entraînera tout le mouvement lié aux Alliés et donc au débarquement final. Les Américains commencent à déchanter, la période de faste est un peu commencée. Les premiers grands orchestres commencent à se dissoudre, mais il y en a un qui résiste encore, c'est Jay McShann.
Thank you. don't you remember me? Time ain't been so long, but I've had a break, you see. Well, I'm doing all right. Found me a Cupid doll. Well, I'm doing all right. Found me a Cupid doll. She lives two flights up, and she sends me with a smile. Well, she calls me her lover. Well, and a beggar too. Yeah, she calls me her lover. Well, and a beggar too. Ain't you sorry, little girl, that my new little girl ain't you?
Hootie Blues, enregistré le 30 avril 1941 par le J. McShann Orchestra. À signaler que dans ce morceau, eh bien, c'est un des premiers enregistrements où l'on peut entendre saxophone alto, et d'ailleurs il faisait un solo dans ce morceau. On pouvait entendre donc Charlie Parker qui allait lancer quelques années plus tard le bebop avec son ami Dizzy Gillespie. Alors, il est deux chanteuses qui, à cette époque-là, non pas s'opposent, mais se complètent, une face noire et une face blanche, ou on pourrait dire une face nocturne et une face solaire. Nous allons commencer par la face nocturne, et c'est « Billie Holiday in my solitude ». Thank you. New York, le 9 mai 1941, la voix magnifique de Billie Holiday. Elle vient de chanter en public à Union Square pour la célébration du 1er mai de la fête du travail. Elle passe tous les soirs au Kelly's Stable et elle retrouve donc Eddie Haywood, le pianiste, en studio. Alors comme pour ses précédentes séances, quelques semaines auparavant, où elle a déjà enregistré avec ce musicien. Alors la critique américaine, qui la boude parfois, préférant ses disques avec le pianiste Teddy Wilson, doit pourtant quand même reconnaître qu'avec ce « In My Solitude », elle n'a jamais été aussi émouvante. Depuis la mort de Chick Webb en juin 1939, on ne parle plus d'Ella Fitzgerald, la chanteuse solaire, intervenant comme chanteuse mais comme chef d'orchestre, parce que Ella a créé sa propre formation, son propre grand orchestre. Elle le dirige de main de maître et elle a mûri, elle est plus célébrée, elle est connue, elle enregistre pour de bon nombre de labels et elle a pris une nouvelle dimension dans l'interprétation des ballades. Je vous propose d'écouter une composition de Duke Ellington, I Got It Bad.
Never treats me sweet and gentle the way he should. Got it bad, and that ain't good. My poor heart is sentimental, not made of wood. I got it bad, and that ain't. Jumping and Friday rolls around, my man and me, we gin some and pray some and sin some. He don't love me like I love him. Nobody could. I got it bad, and that ain't
Fitzgerald et son famous orchestra I Got It Bad, enregistré à New York le 31 juillet 1941. Apparaît cette même année un pianiste que l'on connaît sous son nom de Nat Cole, qui n'est pas encore le King Cole. Il joue du piano et il commence à chanter. Il a inventé le trio sans batteur, mais ce n'est pas ce qu'on va avoir dans le morceau qu'on va écouter. Il a bien rodé son trio dans des clubs et des radios de la côte ouest où il s'est fixé définitivement. Il enregistre une séance chez Decca, deuxième séance chez ce label, à l'issue d'une tournée dans l'Est. Et ce roi de la ballade, avec cette voix si particulière, un petit peu éraillée, un petit peu un petit peu cassé par le tabac, s'abandonne avec ses complices à une séance assez inattendue, car il n'avait pas pour habitude de chanter en scat, mais là il le fait, et il le fait en compagnie d'Oscar Moore à la guitare, de Wesley Prince à la basse, de Lee Young à la batterie, à New York, le 7 juillet 1941.
Solid in the groove, I like to riff, for it's a solid killer. Da-ba-ba-do-da-ba-da-ra-da-do-da, riffing is a thing for me. If you want to be a sender, knock your friends on the deuce of bender. Grab a major scale and run it, ba-ba-do-da-ba-ba-do-da-ba. Zip, I like to riff, cause it makes you feel so fine. I like to riff, it takes troubles off your mind. Ba-ba-do-da-ba-da-ra-da-do-da, riffing is a thing for me. Riff like this. Riff like this.
I like to riff par le Nat King Cole Quartet pour l'occasion. Eh bien, si s'achève ce nouvel épisode des années 40, demain, une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Oui. Je dois la voir. Il me l'envoie. Je ne l'ai pas regardé ce soir, mais il me l'envoie.